Il en aura sûrement un quatrième, mais quand il y a un quatrième, je sais qu'à chaque fois c'est l'angoisse de me dire mais comment je vais réussir à refaire un album qualitatif, avec de la cohérence, etc. Donc c'est toujours un saut quand même dans l'inconnu, c'est toujours aussi stressant quoi.
Ton actualité c'est Where Does the Night Go, un album concept, et puis on va en parler un petit peu plus tard de ce concept, et là on va écouter l'un des tubes de cet album. C'est The Moon, il s'appelle Mokado, c'est notre invité cette semaine dans DJ Academy et on se retrouve juste après le morceau. C'est l'un des premiers gros albums de cette année 2026. Where Does the Night Go, c'est le troisième opus de notre invité Mokado. Il est français et là, en extrait, on a écouté The Moon, 3h49 du matin. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est le concept qui se cache derrière Where Does the Night Go ?
Oui, alors c'est en fait c'est un peu un pur hasard à l'époque justement où je cherchais un concept pour mon troisième album, où j'avais plusieurs idées en tête mais rien de très poussé pour construire, et j'ai lu en fait un dossier d'un magazine qui s'appelle Uzbek Erika, maintenant ça s'appelle Futur mais à l'époque ça s'appelait Uzbek Erika, qui est un magazine de psychologie, sociologie, de réflexion sur le monde, et qui avait sorti un dossier sur Où va la nuit ? en se posant la question de qu'est-ce que la nuit maintenant, à notre époque, le fait que maintenant on vit de plus en plus la nuit aussi, beaucoup de villes comme Paris ont maintenant aussi des maires de la nuit pour eh bien, cadrer politiquement, socialement ce que se passe la nuit. Ça m'avait beaucoup interrogé sur ma vie la nuit aussi. En parallèle, j'avais fait mes premières résidences de DJ au pop-up du label à Paris. Et à partir de là, je me suis dit que la nuit était un questionnement évidemment très identitaire avec mon style musical et qu'il fallait prendre ce sujet, puisque c'était un sujet en même temps musical, de qu'est-ce que le son de la nuit, mais aussi sociologique, qu'est-ce que veut dire la nuit, comment on l'interprète. Et pour moi, à partir de là, tout s'est débloqué. Et c'est ça qui m'a donné le coup de pouce pour trouver l'idée de cet album.
Et quelles sont tes inspirations personnelles pour composer ? Que ce soit autant en parlant de voyages, de films, de souvenirs personnels. Et concrètement, comment est-ce que tu commences un morceau ? Un mariba acoustique, des pads électroniques, des samples ?
Déjà, il y a l'idée qu'avant, je m'inspirais quand même beaucoup des vies qui avaient autour de moi, qui gravitaient autour de moi. C'est ça qui m'inspirait beaucoup. J'essayais de ne pas mettre autant de souvenirs personnels dedans. Dans ce nouvel album, c'est un peu moins le cas. Je mets beaucoup de souvenirs à moi dedans. Donc, c'est aussi toute ma vie de noctambule, ma vie nocturne, ma vie de club qui est intégrée dedans, qui essaye de partir de cette base et après de le généraliser pour que ça soit un message universel. Et puis pour cet album, c'est surtout parti des synthétiseurs, donc des boucles mélodiques, donc de mon Prophète 6 qui est arrivé au moment de la création de cet album, où l'écrasante majorité des projets sont partis de ce synthétiseur et sont partis de la mélodie d'abord et toujours la mélodie d'abord.
Mais à la base, tu te définissais plutôt comme un oiseau de jour ou un oiseau de nuit ?
J'ai toujours été quand même plus la nuit, j'ai toujours été plus efficace en fin de journée qu'en début de journée, c'est un peu moins le cas maintenant, mais maintenant j'ai l'impression de graviter entre les deux, quoi. J'ai l'impression que les deux font partie de mon identité, que ça soit musical ou de vie, quoi. C'est-à-dire que vraiment je gravite entre les deux, j'ai autant de plaisir à sortir la nuit que de me lever tôt le matin, parce que aussi voilà, ça re-questionne à partir de quand s'arrête la nuit. On peut considérer qu'à 6h du matin, voilà, c'est encore un peu la nuit, on est dans cette transition vers le jour, et c'est toujours très intéressant aussi.
Ta musique, elle a toujours eu un côté organique, et la scène clubbing britannique avec des musiciens comme Fortet ou Floating Points ont toujours mélangé organique et techno-introspective. Quelles influences de la scène britannique tu en as tiré pour tes productions et comment ça se traduit dans Where Does the Night Go ?
Ouais, y a énormément d'inspirations britanniques, moins que des inspirations très spécifiques de son, même si tu as raison, Floating Points et Fortet sont des inspirations, mais en fait ce qui m'inspire surtout chez eux et dans la culture des artistes que j'aime en Angleterre, c'est surtout ce rapport à la liberté musicale, c'est-à-dire de ne pas se poser des questions, de ne pas surintellectualiser comme nous on peut le faire en France parfois, et donc de s'amuser avec les styles, avec les collaborations, avec les personnes. Et ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup et que j'ai voulu intégrer dans cet album. Et donc, ce qui m'a beaucoup inspiré dans la culture britannique, au-delà évidemment du son, qui est une évidence quand on écoute les morceaux, c'est surtout cette liberté de pouvoir passer d'un style à un autre dans un morceau, avec des voix différentes, de faire des breaks totalement improvisés dans les morceaux, et donc d'aller vers cette liberté, vers ce plaisir de liberté.
Et un morceau où on passe d'un rythme breaké à un rythme 4-4, c'est The Tube. 5h25 du matin. Il s'appelle Mokado. On va écouter ce morceau, extrait de son album Where Does the Night Go, et on se retrouve tout de suite après.
DJ Academy, le mag, l'interview. We'll be right back. Academy, le mag, l'interview.
C'est un petit tube underground et c'est peut-être pour ça qu'il l'appelait The Tube. Il s'appelle Mokado et ce titre est extrait de son nouvel album Where Does the Night Go. C'est sorti le 16 janvier 2026 et c'est signé en licence chez Balagan, la division électronique de Wagram. Je sais qu'à la base tu t'auto-produis. Signé dans une mini major, qu'est-ce que ça t'apporte de plus au quotidien ?
Oui, bah alors le projet est toujours entre guillemets en indépendant, puisque en fait chez Balagan j'ai signé ce qu'on appelle un contrat de distribution. Donc ça veut dire que Balagan m'aide à faire découvrir le projet au plus grand nombre, m'aide à placer mes vinyles dans les bacs de bonne qualité, mais j'ai toujours 100% du contrôle artistique, visuel sur ma musique. Donc voilà, l'idée de Balagan, c'était déjà, on travaillait ensemble de près ou de loin depuis un certain moment et on avait envie de continuer cette aventure ensemble. Donc de travailler en distribution avec eux, ça m'aide à avoir ce réseau qui est assez important en distribution, qu'ils ont, que moi je ne peux pas avoir tout seul avec mes petites mains.
Il y a une quinzaine d'années, j'ai interviewé The Toxic Avengers pour son premier album et lui me disait à l'époque vouloir faire danser les filles et faire pleurer les garçons. J'ai l'impression de retrouver un petit peu de ça à travers ce nouveau disque. Est-ce que toi aussi, tu vis ce genre d'émotion bipolaire ?
Ouais, en tout cas, j'essaye d'avoir cette utopie que ma musique peut tout autant faire danser dans un moment d'euphorie pure où les gens se déconnectent, tout en étant aussi une musique qui permet de réfléchir selon l'heure à laquelle on l'écoute. Donc c'est ça que je trouve assez intéressant. C'est bien sûr un peu utopique, hein, parce que la musique, c'est pas moi qui contrôle comment elle est écoutée par les gens, mais c'est un fantasme que j'ai de que la musique peut tout autant être en club où on est là pour totalement se lâcher, être dans une perte de contrôle de nos vies, tout en étant totalement conscient de ce qu'on fait, et en même temps d'être une musique très intellectualisée où on peut se poser beaucoup de questions en même temps qu'on l'écoute.
Et le rendu, eh ben, il sonne très spontané, mais également très réfléchi. Il n'y a qu'à voir le nom de la tracklist. Et ça nous fait penser à un vrai concept, une sorte de frise chronologique, un petit peu comme une BO d'un film imaginaire, où chaque titre est un petit peu aussi comme un chapitre de jeu vidéo. Est-ce que c'est une idée de départ ? Est-ce que ça s'est construit au fil du temps, comme l'album Marius ?
Ça s'est construit en même temps au départ et en même temps au fil du temps. Ce qui était au départ, c'était l'idée de lieux, qui étaient des lieux abstraits. Donc de ne pas avoir de lieu exact avec des données géographiques, mais plutôt d'avoir des noms qui évoquent des choses pour à peu près tout le monde. Donc, et d'avoir cette idée du « the », donc le parc, les buildings, le métro, voilà, de jouer là-dessus. Les horaires sont arrivés après, et en fait, qui était une deuxième strate. En fait, dans l'album, il y a trois strates, en fait, plus ou moins faciles à comprendre dans le tracklisting. Le premier, évidemment, les lieux. La deuxième, sur les horaires, et à quel point ça questionne l'idée des horaires quand on fait un album et quand on essaie de contrôler la nuit. Et puis le troisième, c'est l'idée de la nuit seule et la nuit à plusieurs, puisqu'on se rend compte que selon les lieux qui sont indiqués, c'est des lieux où on peut s'imaginer seul et d'autres où on a un peu plus de mal à s'imaginer seul. Et donc, comment on joue entre la dualité dans la nuit, entre être à plusieurs mais être parfois un peu seul et parfois être seul mais être aussi à plusieurs. Voilà, questionne un peu tout ça.
On va aussi parler de ces pochettes, tes pochettes d'albums qui racontent aussi une évolution visuelle en un petit peu moins de 10 ans. Au départ, on y retrouvait des visages symbolisés par des dessins. Pour Marius, on y retrouve une photo et puis depuis, ça vire à l'abstrait total. Avec Where Does the Night Go, on dirait du Bauhaus revisité en vitraux de cathédrale. C'est géométrique, mystique et nocturne à la fois. Pourquoi ce virage abstrait ? Et qui est aux manettes de ces visuels qui collent bien à ton masque et à ton imaginaire ?
Alors déjà, qui est aux manettes ? C'est moi, qui ai fait l'ensemble des visuels de ce nouvel album. J'avais déjà fait aussi ceux de l'album précédent Maskoï. L'idée, elle est simple, c'est que à partir du moment où j'ai compris que je voulais faire un album sur la nuit, ça m'a pris beaucoup de temps à le composer, mais j'avais la pochette très tôt. J'avais presque la pochette un an avant de commencer à composer cet album, de me poser pour me mettre dessus, parce que j'ai besoin d'un rapport visuel avant de composer, et aussi parce que quand j'ai pensé à faire un album sur la nuit, j'ai voulu quelque chose de brut, minimaliste, et tu as totalement raison, c'est une grande inspiration que le mouvement Bauhaus dans cette pochette, dans ce minimalisme presque brutaliste aussi, dans cette idée de on revient à l'essentiel, on essaie d'avoir une pochette qui soit sobre mais qui raconte quelque chose. Les vitraux, ils viennent naturellement par ce délire et cette inspiration aussi Bauhaus en fait à l'intérieur, et puis c'était l'idée d'écrire des choses et qu'on puisse le lire de plein de façons différentes, comme on peut lire l'album de plein de façons différentes. Certains vont voir que les cubes, d'autres vont voir les lettres à l'intérieur, et on peut jouer avec évidemment sur scène et avec cette pochette.
Donc un visuel qui, comme la musique, invite direct à l'imaginaire. Et là, extrait de l'album Where Does the Night Go, on va écouter The Block. The Block, qui en anglais signifie... Alors, c'est quoi le concept ?
The Block, c'est les barres d'immeubles, en fait. Hein. C'est le terme qu'on utilise pour dire... Alors, on utilise la même chose en français, d'ailleurs, dans le rap, pour dire on est en bas des blocs. C'est vraiment toutes ces barres d'immeubles en banlieue. Ça vient de toute mon histoire à moi aussi, qui a grandi en banlieue parisienne, de cette idée d'être dans un endroit qui, en fait, est en même temps un point de départ et aussi un point, des fois, où on a du mal à en sortir. Et qui est intéressant, après sortir dans la ville, pour aller en club et pour s'amuser.
Et ben moi, je pensais que The Block, ça pourrait être le nom d'une discothèque ou d'un club imaginaire. On va écouter ce morceau qui ouvre ce nouvel album de Mokado, Where Does the Night Go, et on se retrouve tout de suite après.
DJ Academy, le mag, l'interview.
Ce morceau ouvre le nouvel album de notre invité Mokado. L'opus s'appelle Where Does the Night Go, un album concept. C'est déjà ton troisième album. Et par rapport à tes débuts, je me demandais, sur scène, parce que forcément ce disque tu vas le défendre en live, quelles limites tu peux rencontrer avec tes instruments, puisque Tu te produis avec des machines. Je me souviens que sur scène, tu avais des synthés, des pads, une table de mixage. Depuis, en vidéo, je t'ai vu travailler avec un marimba. Quelles sont les limites que tu peux rencontrer avec ces instruments et comment est-ce que tu fais dialoguer le studio et le live ?
Ouais, bah pour le coup, c'est vraiment deux ambiances différentes. C'était peut-être moins le cas avant, mais maintenant, j'essaie vraiment de séparer le live des albums. J'utilise pas les mêmes machines, pas les mêmes synthétiseurs, pas les mêmes. J'essaie juste de reconstruire avec des instruments qui sont cohérents ensemble pour faire sonner surtout en concert, ce qui est pas la même chose que faire sonner en studio. Les contraintes, je sais pas s'il y en a vraiment. J'ai l'impression maintenant de me libérer des contraintes puisque j'accumule maintenant. L'idée justement d'avoir un live presque entièrement machine. Donc il y a encore beaucoup de choses sur l'ordinateur, mais j'ai sorti beaucoup de choses maintenant qui sont dans des machines. J'intègre beaucoup de pédales aussi, de guitares sur mes synthés pour pouvoir les contrôler en live, m'amuser avec. Et je joue sur cette dualité où maintenant en live je joue avec une zone à droite, une zone à gauche. Il y a une zone qui est entièrement dédiée aux machines et aux synthétiseurs, aux boîtes à rythme. Et l'autre zone qui est en fait ma zone marimba, ma zone beaucoup plus organique, dans laquelle je m'amuse aussi. Donc le but, voilà, c'est toujours de jouer entre la dualité entre les deux. Mais j'ai l'impression que maintenant, en live, on est plus dans l'amusement d'essayer de plus en plus de choses, de me libérer de la contrainte de l'ordinateur, qui est toujours un peu là, bien sûr, pour contrôler des choses, et notamment aussi toute la partie scénographique. Mais moi, en live, je m'amuse beaucoup avec les machines maintenant.
Est-ce que la prochaine étape, ce serait pas que tu restes aux machines et que tu es un vrai joueur de marimba, comme Chloé avec Vaselina Semarifoba?
C'est vrai qu'il y a du sens là-dessus. Alors, je suis plus en fantasme d'avoir un batteur avec moi pour remplacer une partie des percussions. Parce que le marimba, ça reste mon instrument de cœur, donc je suis toujours très heureux d'en jouer. Ça m'embêterait de le donner à quelqu'un d'autre, même si ça pourrait être intéressant pour un projet unique. Par contre, la batterie, je trouve ça intéressant, quoi. C'est cette idée un peu organique, quoi, de jouer aussi avec une batterie. En plus, ça prend beaucoup de place sur scène, on l'entend. Donc ça, pour le coup, c'est un vrai rêve, ouais, d'avoir un batteur avec moi sur scène pour jouer pas mal de choses.
Sur ton premier album, tu avais invité Loïc Fleury, le chanteur du groupe Isaac Delusion. On y retrouvait aussi Samba de la Muerte. Et là, sur cet album, les vocaux, ils sont plutôt mystiques. On ne sait pas si c'est ta voix ou si ça vient d'une banque de samples. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces vocaux mystérieux ?
Ouais, ça venait en même temps que j'ai voulu m'inspirer de la culture anglaise et aussi au moment où je voulais travailler dessus. C'était pas complètement évident de trouver des collaborations sur cet album, et donc en fait en même temps que c'était difficile d'en trouver, l'idée elle était simple, c'était d'aller vraiment sampler un maximum de choses et donc de diguer énormément de vieux vinyles. Il y a beaucoup d'inspiration soul aussi dans les voix, donc je suis allé chercher des vieux vinyles, d'autres qui viennent de banques de sons gratuites qu'on peut trouver vraiment en diguant très 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 loin dans les sons. Et donc je me suis amusé à ça, à aller chercher des vieux samples de soul des années 50, 60, et après de voir comment on les mélanger avec la culture électronique.
Et la prochaine étape, est-ce que ce serait pas de travailler avec des vrais chanteurs de soul ou de rap ?
C'est exactement la prochaine étape. C'est en tout cas là où j'ai envie d'aller dans le prochain album. On verra si j'y arrive, si c'est cohérent. Mais moi, là où j'ai envie d'aller, c'est, je trouvais intéressant, vu qu'on parlait de la nuit, d'être dans cette solitude et de travailler seul. Je pense que le prochain album, il est plutôt un album de collaboration. C'est presque l'idée du prochain album, c'est d'être un album presque 100% de collaboration.
Et l'étape d'après, est-ce que ce serait la BO de film ?
Ah, ça c'est un rêve, ouais. Ça, on va dire que c'est moins dans mon contrôle. Mais bien sûr, je pense qu'il y a, du travail à faire là-dessus, en général à l'image. Je pense que ça va aussi avec le fait de se poser un petit peu plus, d'avoir mûri avec ces trois albums, d'aller vers la musique de film. Ça serait un beau rêve s'il y a des réalisateurs qui m'écoutent avec grand plaisir.
L'un des titres les plus cinématiques de l'album, c'est peut-être The Park, morceau qui clôt Where Does the Night Go. On va l'écouter, 4 minutes 20 de pur bonheur, et on se retrouve tout de suite après avec Mokado en interview.
DJ Academy, le mag, l'interview.